Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On démarre avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. Depuis des années, le nord de Paris est le repère de nombreuses personnes accros au crack. Les riverains se retrouvent en insécurité. Dans certaines rues, la police est même obligée d'accompagner les enfants à l'école. Alors, est-ce un aveu d'impuissance de l'État ? Témoignage ce matin de Priscilla. Elle est mère de famille et déléguée de parents d'élèves.
Ce qui se passe, c'est que notre quartier, comme vous l'avez dit, est un quartier qui est enclavé. On a des parents qui viennent d'un bâtiment qui est derrière le périphérique et ils manquent ce passage pour passer. On a été obligé de demander la continuité du dispositif qui avait été mis en place par la mairie pendant les vacances scolaires, parce qu'au retour des vacances scolaires, les parents arrivaient totalement en panique, il y en a qui pleuraient, parce que sur ce chemin, en fait, il y a de la mendicité agressive, il y a de la prostitution, il y a beaucoup de choses que les enfants ne devraient pas voir. Que ce soit dans cette allée ou dans le quartier en lui-même, nos enfants assistent à toute scène sexuelle. Donc c'est un lieu de consommation à ciel ouvert aussi. Donc nos enfants en fait voient tout. On enlève toute l'innocence à nos enfants. Et je tiens à préciser que c'est pas qu'une école primaire. Il y a aussi l'école maternelle. Donc il y a des enfants âgés à partir de 3 ans en fait.
Mais c'est scandaleux, Thierry Moreau, d'entendre ça, quoi. Voilà, que des enfants puissent assister à ça, qu'on soit obligé quand même de demander à des policiers d'accompagner des gamins à l'école, alors qu'on se dit qu'il faudrait peut-être régler le problème, c'est quand même plus simple.
Alors, c'est des policiers municipaux. Oui. Il y a aussi une navette qui est mise en place par la mairie pour.
À Lucie.
Il y avait déjà eu le cas il y a quelques années à Lariboisière, où il y avait des policiers qui accompagnaient les gens qui rentraient, qui sortaient, parce qu'il y avait des risques d'agression. Là, c'est le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un problème et qu'on met une mauvaise solution. Parce que c'est une solution qui n'est pas pérenne. C'est un cautère sur une jambe de bois. C'est-à-dire que ça ne va rien résoudre. Et une fois de plus, les gens qui sont dans cette situation de crack, il faut
obligé de vivre ça. Quoi.
Non, mais on déplace la colline du crack, on les met ailleurs, on les met à Pantin, on les met à la Vilaine.
Bah, tu les soignes peut-être déjà, en fait.
Bien entendu qu'on les soigne.
Tu sais, quand j'étais au collège, moi, à chaque fois que j'arrivais à mon collège à Dijon, on glissait sur des préservatifs complètement pleins et il y avait des seringues par terre et il n'y avait jamais rien qui était fait. Et au collège, au collège, comment ça m'a choqué, alors j'imagine. Thierry Moreau qui est mort de rire. Moi, ça m'a pas fait rire. J'étais hyper choquée quand t'arrives en sixième. Et t'imagines les maternelles et les primaires, là, qui en plus, c'est beaucoup plus important ce qu'ils voient. C'est de te faire rire.
Non, mais on fait quoi, Robert?
On
les déplace encore une fois. C'est craqueux, comme on dit. On les soigne, on les met dans un centre. On fait quoi? Parce que c'est pas
le
possible.
Crack,
bien sûr qu'il y a un problème.
Estelle, le crack est la pire des drogues. Pourquoi c'est la pire des drogues? Parce que d'abord, c'est la moins chère. Et deuxièmement, c'est la plus addictive. Et troisièmement, si vous voulez, c'est une des plus dangereuses. Alors, déjà, ce sont des malades. Et les malades, on les soigne. Et là, rien n'est fait. Rien n'est fait. Est-ce que c'est la responsabilité de la mairie de Paris? Est-ce que c'est la responsabilité
de
l'État? Tout le monde se renvoie la balle.
Et personne n'en veut, évidemment.
On peut pas laisser ce genre de choses vis-à-vis des enfants, parce que c'est à la fois du crack, c'est aussi de la prostitution.
C'est ça.
Et souvent, si vous voulez, pour se payer des doses, il faut se prostituer.
Oui. Et c'est à ciel ouvert.
Et vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer dans 2 ou 3 jours? Il y a une opération de police pour virer tout le monde.
Oui. Et on va les abîmer.
Ils vont aller ailleurs.
Oui.
Donc Lorraine sera réglé là,
c'est
à cet endroit précis.
Et ils vont revenir.
Sans
fin.
C'est sans fin.
C'est
soigné.
Et pour les familles qui vivent ça, c'est
un enfer.
Et de nombreuses familles veulent déménager, mais sauf que la double peine, leur appart ne vaut plus rien, puisque évidemment, il est dans cet environnement. Donc, voilà, c'est absolument sans fin. Les GG, ce matin, Jean Castex, candidat à l'élection présidentielle en 2027. Est-ce que vous y croyez? L'ancien Premier ministre et désormais président de la RATP vient d'être décoré de la Légion d'honneur. Et certains députés macronistes estiment qu'il peut encore apporter à la France. Mais le prof d'histoire géo des GG, Kevin Bossuet, n'y croit absolument pas.
Moi, j'aime beaucoup Jean Castex, hein, c'est quelqu'un de très sympathique, etc. Mais à un moment donné, un peu de sérieux, je veux dire. Il y a bien des Nicolas Dupont-Aignan qui se voient président de la République, pourquoi pas Jean Castex?
À un moment, je pense qu'il est. Matignon pense à l'Élysée.
Vous voyez bien que ça a été. Pour moi, c'est un peu. Vous savez, dans l'Empire romain, il y avait des empereurs qui n'étaient pas là pour durer. Par exemple, c'est Nerva qui était là pour attendre une autre succession, un grand empereur qui allait arriver. Pour moi, Jean Castex, il est un peu là-dedans. On l'a mis là pour qu'il ne fasse pas d'ombre au président de la République. De là à se présenter dans une campagne présidentielle, ça n'a évidemment aucun sens.
Jean Castex, candidat à l'élection présidentielle, vous y croyez ou pas, Thierry Moreau?
Pas du tout. D'abord, il faut jamais oublier la malédiction de Matignon, c'est-à-dire qu'à part Georges Pompidou qui a été Premier ministre et ensuite est devenu président, il n'y a pas de gens qui soient passés par Matignon.
Parce Chirac quand même.
C'est Chirac.
Oui, Chirac, c'est vrai. Chirac. Il y a l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer de Matignon, très grand, mais il était en cohabitation, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Il avait la main.
Il avait la main. Il avait un parlement. Donc quelque part, il gouvernait. J'y crois pas. Et surtout, tirer des plans sur la comète aujourd'hui, alors qu'en plus on est dans une situation, on ne sait même pas ce qu'il va y avoir dans 6 mois sur la situation financière, politique, internationale, etc. Penser que quelqu'un peut être candidat présidentiel, enfin, j'y crois pas.
On l'a dit sur Édouard Philippe, il y a trois jours.
Il peut se passer énormément de choses jusqu'à 15 jours avant l'élection, donc j'y crois pas du tout.
Ça, c'est pas possible. Il peut se présenter 15 jours avant l'élection, vous le savez.
Mais il vient d'être président de la RATP avec tous les problèmes de la RATP, si vous voulez. Et c'est pas parce qu'il est récipiendaire de la Légion d'honneur qu'il va être tout d'un coup, parce qu'il reçoit la Légion d'honneur, il pourrait être président de la République.
Bon, ça, enfin, il a été premier ministre.
Toutes ces bonnes images, les Édouard Philippe, etc.
Ça a été un premier ministre, pas du tout politique. Ça a été un premier ministre technicien. Et il a géré, surtout en particulier, et plutôt pas trop mal, assez apprécié des Français.
C'est ce qu'on dit toujours, la crise des premiers ministres, une fois qu'ils sont plus en exercice, alors que tout le monde les critique.
C'est pas du tout un homme politique. C'est un haut fonctionnaire, assez efficace. Et donc, je crois que même dans sa tête, il envisage, il est à milieu d'envisager une candidature à la présidence de la République.
Son entourage dit justement qu'au contraire, il l'envisage très très bien. Ceux qui sont dans sa tête, oui, ce matin, il y a
qui est dans
des
sa
interviews.
Tête,
je ne sais pas qui.
Vous aviez deux personnes dans votre tête. Tout à l'heure, maintenant, il y a des gens dans la tête de Jean Castex.
Mais moi, s'il n'y avait que deux personnes dans ma tête. Non, mais voilà, disons que parfaitement, il se projette. Mais moi, je peux comprendre qu'un homme comme ça se projette. Il a été premier ministre. D'un seul coup, il est sorti de l'anonymat. Les Français le connaissent. On garde visiblement pas une trop mauvaise image comme Édouard Philippe, ils vont tous tenter leur chance puisque Macron ne pourra pas se représenter. Mais par contre, c'est
tellement
tôt.
Mais d'abord, il peut y avoir
des
solutions et surtout tirer des plans sur la comète.
Mais complètement.
À X années du
mais moi, j'aime bien qu'on fasse des comme ça, des hypothèses,
parler les journalistes. Ça fait parler les journalistes, les chroniqueurs politiques.
Les favoris, on voit ce que ça donne. Regardez l'histoire de Balladur qui était archi favori, qui s'est planté. Enfin,
rien. Il faudrait déjà que Castex soit favori. On n'est pas là.
Oui, c'est vrai que c'est aussi une hypothèse qui n'est pas. Voilà. Les GG encore ce matin. Faut-il interdire Twitch au sein de l'Assemblée nationale? C'est le député LFI Hugo Bernalicis qui avait pour habitude de retransmettre en direct les séances sur l'application Twitch et qui désormais ne pourra plus le faire. Une interdiction que ne partagent pas les GG.
Moi, je suis partagé là-dessus parce que je trouve qu'en même temps qu'un député utilise, comme lui, les moyens modernes de communication, ça me choque pas. Alors après, peut-être que pendant la séance, il est censé être concentré sur ce qui se passe et pas faire sa propre promo. Mais qu'un député aille sur Twitter, Twitch, enfin, c'est normal, ce sont les nouveaux moyens de communication.
Mais c'est le même qui fait live, en fait. C'est le live, je pense. Et d'être l'application très intrusive.
Tout le monde est pas utiliser ses moyens de communication.
Bah oui, moi, je pense aussi. Et puis, quand j'ai déjà regardé des débats parlementaires, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Oui. Moi, si j'étais député, je passerais mon temps sur Twitter, sur Instagram, sur machin, pour passer le temps. Enfin, c'est horrible, ces débats. Enfin, qu'on leur fiche la paix du moment qu'ils font un vrai travail, que leurs collaborateurs travaillent. Moi, ça me gêne pas. Ils font ce qu'ils veulent.
Est-ce que c'est logique d'interdire Twitch au sein de l'Assemblée, Thierry ?
Alors, la retransmission en live de ce qui se passe dans l'enceinte, j'ai envie de dire oui, parce que le député, il est là pour écouter. Alors, il n'intervenait pas sur la caméra, il montrait simplement ce qui se passait de le débat. Donc, c'est,
dans ces cas-là, les gens ont qu'à se mettre sur la chaîne Assemblée nationale.
Sauf que Hugo Bernalicis va vous expliquer que les gens qui le suivaient sur Twitch ne regardent pas la télévision. Ce sont des jeunes qui ne regardent pas la télévision.
Ils peuvent regarder, il y a une appli.
Oui,
sauf que les jeunes, ils sont sur Twitch.
Sauf que l'appli s'en fout de ce qui ils sont sur Twitch, les jeunes.
Quel jeune de 15 ou 16 ans regardait Hugo Bernalicis?
Il y en a un certain nombre qui regardaient parce qu'il y a beaucoup de gens qui se politisent sur ce nouveau réseau social. D'ailleurs, il y a des hommes
politiques. Ça dépend le débat. Et
simplement,
ça dépend le thème,
moi, je pense qu'il faut qu'il fasse son travail de député pendant les séances et ne fasse pas de live Twitch. Et qu'en revanche, qu'après, il débriefe avec ses streamers, avec ses viewers, les gens qui le regardent en disant voilà, il s'est passé ça. Moi, j'ai pris telle position, c'est ça qui s'est expliqué la politique. Oui, la retransmission en live, l'enceinte de l'Assemblée, on n'a pas le droit d'y filmer en dehors des images autorisées par LCP, donc c'est dans la droite ligne du règlement de l'Assemblée.
Est-ce que l'Assemblée, on fait tout maintenant, on vapote, on stream, c'est extraordinaire.
Non mais pour autant, est-ce que ça peut pas, moi j'étais pas choquée par ça, est-ce que ça peut pas faire naître justement des vocations, des gamins, des ados, qu'on emmène dans ces hémicycles-là où ils auraient pas vraiment accès? Quel gamin de 15 ans va regarder LCP Assemblée Nationale, enfin sérieux.
Si tu fais l'effort d'aller sur le stream d'Hugo Bernalicis, tu peux très bien faire l'effort, je veux dire, de télécharger l'application
LCP. Ça se passe pas comme ça. Ils sont sur Twitch et ils chopent à un moment le fait qu'il y a un programme qui les intéresse parce que tiens, il y a quelqu'un qui est à l'Assemblée qui retransmet. Ils zappent en fait sur Twitch, sur tout ce qu'il leur est proposé. Pardon ?
C'est comme des.
C'est ça.
D'accord, les vidéos Instagram où tu.
C'est ça.
D'accord, ok.
Donc ils chopent ça. Ah tiens, il y a quelqu'un qui est à l'Assemblée qui regarde. Mais donc moi je me dis que tant qu'il fait un live pendant la séance, il fait pas son boulot de député. C'est un peu ça qui est gênant.
Encore l'exemplarité.
Exactement. Apolline Matin, ce matin, que commandent les Français en livraison? Une célèbre enseigne de livraison de repas et de courses, Uber Eats, hein, pour ne pas la citer, vient de publier la liste des produits les plus commandés cette année en France et Charles Magnin nous en dévoile les plus insolites.
Le 17 janvier 2022, c'était le Blue Monday, le fameux jour le plus déprimant de l'année. Et bien ce jour-là, un record, 1839 tablettes de chocolat ont été commandées. Pour la Saint-Valentin, autre record, 242 boîtes de préservatifs le même jour sur la plateforme. Lors des pics de chaleur, tiens, 17 juin dernier, on s'en souvient, il faisait très chaud, 625 déodorants commandés sur la plateforme Uber Eats.
Il y avait urgence.
Ouais, il y avait urgence, il y a aussi la Journée mondiale des célibataires. Là, ce sont plus de 2000 pots de glace qui ont été commandés en urgence aussi. On apprend aussi que les Français sont plus mayo que ketchup. Ça m'a surpris. Deux fois plus de commandes de mayonnaise sur l'année plutôt que du ketchup. Mais oui, enfin, débat houleux tous les matins à la rédaction. Et bien, sachez que les croissants ont la faveur des Français devant les pains au chocolat.
Bien sûr, team croissant tous les jours. Robert Sebag, est-ce que vous commandez, vous, sur les applications comme ça?
Non, attendez, ce qui me fait plaisir d'abord dans les chiffres qu'on a donnés, c'est le nombre de préservatifs. Parce que ça, il y a une remontée absolument spectaculaire des maladies sexuellement transmissibles.
D'accord.
Si vous voulez, par les gens ne se protègent plus. Donc là, je vois, ça me fait. Alors, je pense que c'était pas pour faire des ballons, c'était effectivement pour les utiliser. C'était le jour de la Saint-Valentin. Alors, moi, j'aurais cru en termes de plats, si vous voulez, que j'aurais mis en premier le couscous et en deuxième les pizzas.
Oui, alors c'était les plus insolites. Donc en fait.
Alors, c'est effectivement pas insolite. Bon, après, le chocolat, bon, oui, pourquoi pas. Chocolat. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir, je répète, ce sont les commandes de préservatifs.
Très bien.
Vous rendez
bien
ce que racontait Emmanuel tout à l'heure.
C'est pas très bon pour la natalité.
Effectivement. Mais c'est très bon pour la santé publique.
Vous vous rendez compte que cette situation et cette discussion ne concerne qu'exclusivement les citadins. Moi, Uber Eats, je commande absolument jamais, sauf une fois à l'hôtel à Paris où j'ai toujours commandé de la nourriture asiatique parce que j'ai pas envie de sortir la chambre. Mais c'est quand même très très urbain ce que vous racontez là.
Mais on est d'accord. Non, parce que maintenant, moi qui habite à la campagne, dans le village d'à côté, il y a une pizzeria qui fait de la livraison à domicile. Il y a un restaurant chinois qui fait de la livraison à domicile.
Il n'y a pas Uber Eats.
Mais donc, le phénomène de la livraison, justement, moi, ce qui m'interpelle dans ce que raconte Charles Magnin, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout faire de son canapé dans des proportions hallucinantes.
T'aurais l'idée de te faire livrer du déodorant, toi, par Uber Eats?
Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que tu commandes Uber Eats. Aujourd'hui, t'as un service de course.
Oui.
En fait, ou comme Amazon. Donc, en fait, t'es en train de commander, je sais pas, tu fais ton marché. Tout d'un coup, tu te dis, bah, tiens, j'ai besoin d'un déodorant. C'est comme comme Monoprix ou Carrefour ou tout ça.
Donc, en fait,
c'est un truc d'aubaine.
Un achat d'opportunité.
Plutôt que de descendre au supermarché.
Bouger tes fesses et descendre au supermarché et faire 200 mètres.
Bah oui, d'accord. Ça fait qu'on devient tous des
obèses
sédentaires et des feignants.
Et tu verras que de ton canapé à la campagne, un jour, tu commanderas tout.
Mais oui, et il y a des drones qui arriveront chez toi, Emmanuel.
Ça, j'ai appris ça.
Tu commandes toi aussi, Thierry?
Un petit peu de temps en temps, oui, ça arrive. Mais je préfère en général me déplacer au camion, quand il y a un camion, ou me déplacer
au cul du camion.
Voilà.
Et puis de toute façon, vous êtes en électrique, donc vous avez le droit. Thierry, on va terminer avec un extrait d'Apolline Matin. Un numéro vert est-il une réponse pour nos entreprises? C'est l'annonce faite sur RMC ce matin par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a mis en place un numéro vert afin que les entreprises en difficulté pour payer leurs factures puissent se faire aider. Écoutez.
Nous mettons en place un numéro vert, je profite de votre antenne pour le
donner. Allez-y, dites-le.
0-806-000-245. Je répète, 0-806-000-245. Vous êtes une PME.
Ça, c'est quoi? C'est les entreprises qui appellent?
Vous avez une difficulté. Vous venez de recevoir votre facture. Les 20% en moins sont indiqués. Vous savez qu'au 1er janvier, en plus de cela, vous pourrez déclarer vos factures au guichet que je viens d'annoncer et avoir une réduction jusqu'à 35%. Et malgré ça, vous avez accumulé des dettes d'URSSAF, vous avez accumulé des problèmes de trésorerie.
Vous avez parfois le PGE,
vous n'y arrivez pas. Et malgré tout, votre entreprise, votre boulanger, vous riez avec 5 ou 6 salariés, elle a de belles perspectives devant elle et il n'y a aucune raison qu'elle ferme. Vous appelez, on vous apportera une aide. Ça pourrait être un étalement de la dette sociale, ça pourrait être un soutien de trésorerie. Il y aura un soutien pour chaque entreprise.
Vous ne laisserez tomber personne.
Excusez-moi, mais est-ce qu'il n'est pas plus compliqué comme numéro vert, je le redonne, hein, que 0806-000-45? Non, enfin, c'est pas possible, quoi.
Oui, après.
Tout doit être pris, remarquez bien.
C'est ça, il y en a tellement des numéros verts. Mais c'est rigolo parce qu'il y a une petite pique d'Apolline à un moment disant c'est un peu le gouvernement des numéros verts. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a un numéro vert qui est mis en place.
Non, mais.
Quand il a commencé à le donner, je me suis dit, il va se faire ramasser. Et effectivement, il s'est fait ramasser derrière parce qu'on a un peu l'impression qu'à chaque. Alors après, le dispositif, c'est pour permettre aux gens d'avoir une ligne directe et d'avoir quelqu'un qui parle au bout du fil.
Et
ce que Apolline a expliqué, justement, c'est on espère qu'il y aura quelqu'un, justement, et que c'est pas un numéro qui va tomber sur un disque et qui va venir de rappeler plus tard. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait quelqu'un au bout du fil qui résolve vraiment votre problème quand vous êtes dans la mouille.
Les humoristes, il y a encore quelques mois, s'en tapaient d'étranges de ces numéros verts où effectivement, il n'y avait pas forcément quelqu'un au bout, puis il y avait des numéros verts absolument pour tout, comme si ça devait résoudre quoi que ce soit. On sent que ça part d'une bonne volonté, mais
à mon avis, les artisans, ils avaient eu envie d'autre chose que d'un numéro vert.
Mais bien sûr.
Bah, d'ailleurs, c'est surtout que si l'administration est obligée de mettre en place des filières directes pour parler à ses administrés, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que l'administration ne sait pas communiquer avec les administrés.
Exactement.
Donc on a un problème.
Et d'ailleurs, c'est pas forcément très bien pris, les mesures qu'il a annoncées. On a déjà eu des premières réactions.
Non,
ça passe pas très bien.
Non, je pense que les artisans attendaient autre chose.